Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Céline Malaisé, conseillère régionale PCF, présidente du groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne à la région Île-de-France. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, Céline Malaisé, la France connaît une période de canicule historique. C'est la première fois qu'autant de départements sont en vigilance orange. 16 départements ont basculé en vigilance rouge, notamment ceux de l'Île-de-France. Les écoles, les entreprises et les particuliers sont appelés à la plus grande vigilance. C'est du jamais vu, estime la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. Est-ce que la France est prête à affronter ces épisodes de grande chaleur qui arrivent de plus en plus tôt?
Est-ce que la France est prête? Non. Est-ce que la France s'est adaptée les dernières années alors qu'il y a déjà eu des alertes? Non plus. Il serait peut-être temps plutôt de faire des constats, de s'adapter, de planifier une adaptation. Par exemple, dans les établissements scolaires, le président de la République réfléchit à élargir le temps scolaire sur l'été. C'est impossible, en fait, c'est impraticable parce que il fait une chaleur qui met en danger les personnels, qui met en danger les enfants. Donc, il est temps de prendre des mesures conséquentes.
Et en tant que conseillère régionale d'Île-de-France, est-ce que vous savez si les lycées de la région sont adaptés au réchauffement climatique? Actuellement, on passe encore quelques euros dans les lycées.
On passe des euros. On a aussi évidemment des personnels qui préparent la rentrée. Donc les lycées ne sont pas adaptés. C'est quelque chose en fait qui est à la fois un blocage idéologique pour une partie, de toute façon, du personnel politique qui ne veut pas voir que le réchauffement climatique est une réalité, et puis également un blocage financier. La rénovation thermique d'un lycée, en fonction de l'état du bâti, en fonction évidemment de sa taille, souvent, et quand on rénove thermiquement un lycée, on l'intègre dans un projet plus global, ça se chiffre entre 8 et 10 millions d'euros. On multiplie par 474 lycées, même s'il y en a qui sont quelques-uns qui sont rénovés thermiquement. Vous voyez que la facture est lourde, c'est 3,5 milliards d'euros qu'il faudrait finalement pour adapter les lycées et leur permettre de fonctionner même en période de très forte chaleur. Ce qui pose la question du financement et ce qui pose la question en fait d'un financement exceptionnel par l'État parce que les collectivités territoriales n'ont pas les reins suffisamment solides pour pouvoir adapter de juste manière en fait les établissements scolaires.
Céline Malaisé, le Parti communiste a dénoncé la guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, tout comme il condamne la guerre contre Gaza. Aujourd'hui, le cessez-le-feu semble tenir entre l'Iran et Israël. Que vous inspire cette guerre de 12 jours ?
Déjà, c'est une violation du droit international à répétition par Israël et évidemment par les États-Unis. Les condamnations ont été trop timides de la part d'États démocratiques et notamment la France. On est dans une étape supplémentaire à la folie trumpesque, quelque chose qui nie à la fois évidemment le droit international, j'ai dit, mais également le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et notamment des peuples à disposer d'eux-mêmes pour les Iraniens. La souveraineté du peuple, normalement, devrait être un principe qui devrait être rappelé par des États démocratiques. Et puis, on oublie aussi Gaza, dans ce grand moment de déstabilisation internationale. On oublie Gaza, on oublie ce qui s'y passe, on en parle moins. Voilà, aujourd'hui, les grands déstabilisateurs de cette région du monde qui étaient les Occidentaux depuis des décennies continuent à déstabiliser le monde. Et puis, la voix de la France et la voix de l'Europe est une voix tellement timide qu'elle ne compte quasiment plus.
Alors je reviens à la situation en France, le conclave sur les retraites s'est achevé sur un désaccord entre patronat et syndicats. Est-ce qu'il faudra attendre l'élection présidentielle pour décider de maintenir ou de revenir sur le départ à 64 ans ?
Le conclave était une farce. Une farce menée par François Bayrou qui avait besoin d'une monnaie d'échange pour gagner du temps. Pour pouvoir rester au pouvoir, il y avait zéro volonté de François Bayrou d'aboutir à quelque chose. Il n'y a pas de majorité politique à l'Assemblée nationale pour valider cette réforme. Il n'y en avait pas auparavant, quand elle est passée au 49-3. Il n'y a pas de majorité sociale aussi qui adhère à cette réforme. C'est la continuité de la déstabilisation qui était ouverte par la période de la dissolution il y a un an. il faudra revenir à la démocratie, en fait, pour pouvoir abroger cette réforme et mettre fin à ces 2 ans de travail supplémentaires qui ont été 2 années de vie, en fait, qui nous sont prises. La CGT demande un référendum. Ça pourrait être une possibilité, mais on voit bien que celui qui peut le décider ne le veut pas, ce référendum. Donc il faudra en faire un objet politique aux prochaines élections, et je n'ose dire quelles seront les prochaines élections parce qu'on ne sait plus maintenant.
Vous pensez qu'Emmanuel Macron pourrait à nouveau dissoudre l'Assemblée ?
Je ne sais pas ce que pense Emmanuel Macron. Je pense que beaucoup de gens ne peuvent plus jurer sur ce que pense ou ce que fera Emmanuel Macron. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de censure qui est réellement votée par l'Assemblée nationale, il n'a pas d'intérêt politique. Il a simplement l'intérêt politique de gagner du temps, comme François Bayrou également. Mais des grandes manœuvres peuvent recommencer à un moment donné. Donc moi, je pense qu'il faut que ce soit les Français qui puissent à nouveau s'exprimer. Les Français se sont exprimés il y a un an. La majorité politique relative qui était sortie des urnes n'a pas été respectée. Et cette majorité politique relative avait dit qu'elle ne voulait pas perdre ces 2 années de plus au travail.
Céline Malaisé, 2 ans après la mort de Naël, est-ce que la situation est toujours explosive dans les quartiers populaires et que pensez-vous des propositions du député LR Vincent Jeanbrun? Il souhaite expulser les familles de délinquants des logements sociaux, il veut que les juges soient élus et qu'il y ait une police régionale.
Alors déjà, est-ce que la colère est toujours présente? Oui. Est-ce que beaucoup n'ont rien compris à ce qui s'est passé? Oui. J'ai vu que le maire de Nanterre avait dit à l'occasion d'un rassemblement pour les 2 ans de l'anniversaire de la mort de Naël qu'il voulait entretenir la mémoire avec la pose d'une plaque, ce qui me semble une excellente chose. Et j'ai vu l'extrême droite s'engouffrer en expliquant que c'était quelque chose d'intolérable. Il y a un droit à la justice aussi qui doit s'appliquer, il y a un procès qui va s'ouvrir. Cette colère, elle est toujours présente et je crois que Vincent Jeanbrun, comme d'autres, n'ont toujours pas compris en fait quelles sont les racines de ce qui est en train de se renforcer dans les quartiers populaires. Vincent Jeanbrun, c'est un espèce de matador de la politique. Il a toujours des propositions cash, flash, et puis ensuite on les oublie. Une police régionale, par exemple, il faut me faire doucement rire, voilà. C'est quelque chose qui est une compétence de l'État, la police, le maintien de la sécurité publique, le maintien de la tranquillité aussi publique. Ça doit rester dans les mains de la police nationale. Ça ne doit surtout pas faire l'objet de rapports de force ultra-politiques et ultra-locales. Même chose pour l'élection des juges. Il y a des pays qui élisent leurs juges. On voit bien que ceux qui sont élus juges sont ceux qui mettent le plus d'argent possible dans leur campagne. Donc ce ne serait plus une justice où ce serait rendu au nom de la société, mais plutôt au nom d'une partie de la société la plus riche. Donc ça, c'est inacceptable. Après, moi, je regarde avec attention les alertes des travailleurs sociaux, des associations, des maires, des élus locaux, qui expliquent que la précarité grandissante partout en France, mais encore plus dans les quartiers dits populaires, est quelque chose qui montre que l'État protecteur, l'État social est de plus en plus absent parce qu'il est en train de liquider les services publics et c'est sur ça qu'il va falloir finalement se battre à gauche et porter un nouveau projet de société qui amène de rassembler.
Alors justement, il y aura des élections municipales en mars 2026, la campagne va vraiment commencer à la rentrée. Quel est l'enjeu pour le PCF en Île-de-France dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon veut faire élire de nombreux maires et les filles en région parisienne?
L'enjeu, au-delà d'un enjeu de chapelle, le Parti communiste ou apparenté a une 30aine de maires en Île-de-France qui ont des bons bilans, qui ont des bilans qui sont le développement des services publics locaux. L'enjeu, c'est la responsabilité des communistes, c'est de construire l'union partout, d'y participer également partout où ils le peuvent, parce que nous sommes conscients du danger qui est ces droites, qui sont extrêmement organisées et qui ont encore des marges de manœuvre dans notre région, et également, évidemment, l'extrême droite, qui ronge progressivement les franges de l'Île-de-France, qu'un sénateur du Rassemblement national ait pu être élu en Seine-et-Marne alors qu'ils n'ont aucun maire, devrait faire prendre conscience à toutes les forces de gauche que l'idée n'est pas de se partager un petit gâteau, mais au contraire de faire en sorte que les communes dirigées par des maires progressistes doivent être plus nombreuses et donc d'unir nos forces de manière importante. Voilà. La division à gauche ne doit pas être à l'ordre du jour de ces élections municipales, parce que moi je sais exactement ce que fait une mairie, un département ou une région de droite sous pression de l'extrême droite et prise dans une dérive idéologique. On sait ce qu'elle fait, elle détruit les services publics locaux. Donc voilà la responsabilité des communistes pour le mois de mars prochain.
La région Île-de-France a décidé de retirer une subvention à l'Inter-LGBT, association organisatrice de la Marche des Fiertés, organisée samedi dernier. Décision prise après une polémique autour de l'affiche prévue pour annoncer la manifestation. D'abord, est-ce que vous avez été choqué par cette affiche et que pensez-vous de la décision de Valérie Pécresse ?
Alors, la région a décidé, par la voix de sa présidente Valérie Pécresse, de retirer deux subventions à la Marche des Fiertés, une pour 2025 et une de manière rétroactive pour 2023, donc 50 000 euros. Moi, je considère deux choses. Première chose, c'est que chaque mouvement progressiste peut s'organiser de la manière qu'il le souhaite. C'est la question de la liberté associative. Donc, il choisit ses mots d'ordre, il choisit ses modes d'action. Et la puissance publique, et ici la région, n'a pas à, si vous voulez, d'avoir un droit d'ingérence, en fait, dans la manière dont ils organisent leur communication. Ça n'est pas du tout la façon de voir de la droite. Elle veut, finalement, pouvoir valider des affiches, des mots d'ordre, etc. Le mot d'ordre, c'était quand même contre l'international réactionnaire. On sait aujourd'hui que les droits LGBTQI sont attaqués partout dans le monde, par une internationale réactionnaire. Et c'est un mot d'ordre finalement qui était assez révélateur, parce qu'on a vu des forces se lever, soit mettre fin à des subventions, soit essayer d'entraver en fait le bon déroulement de cette marche des fiertés. Moi je trouve que c'est quelque chose qui devrait faire réfléchir les mouvements progressistes sur leur manière en fait de pouvoir fonctionner de manière plus indépendante des pouvoirs publics, parce que quand les pouvoirs publics essaient de faire pression, c'est une mauvaise chose, parce que ça a entraîné des retraits en cascade aussi d'entreprises, d'entreprises publiques ou d'entreprises privées aussi, et ça a pu mettre en danger la marche des fiertés et la tenue de cette marche des fiertés, qui était en réalité un véritable succès, parce que l'effet contraire a été d'attirer l'attention sur cette marche des fiertés qui a eu lieu samedi et qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Dernière question, Céline Malaisé, vous dénoncez de longue date la privatisation des transports publics en Île-de-France. Quelles sont les conséquences en ce moment pour les usagers de cette privatisation ?
Alors, cette privatisation est en cours, c'est un big bang qui est en cours, mais déjà les premiers usagers à la vivre, ce sont les usagers des bus de la Grande Couronne, où on a différents opérateurs de transport privés, et on a des suppressions de courses extrêmement importantes chaque semaine. Nous, on les comptabilise. La semaine dernière, on était à plus de 2700 courses qui ont été supprimées. Jamais les franciliens, en fait, et les usagers franciliens n'ont été sondés sur cette privatisation. La CGT RATP a fait réaliser par l'IFOP un sondage. 50% des franciliens ignorent que la privatisation a commencé. Et pour autant, 63% considèrent que ça n'améliorera pas la qualité de transport, parce qu'ils ont été évidemment instruits par ce qui s'est passé dans d'autres secteurs ou qui s'est passé ailleurs dans Europe ou dans le monde. Et 68% demandent la suspension de la privatisation et 77% demandent la tenue d'un référendum pour pouvoir finalement donner leur avis sur ce qui est en train de se passer, sur cette absurdité idéologique qui va à contresens du reste de l'Europe et qui dégrade les conditions de transport des usagers, mais aussi de travail des agents, et qui fait flamber aussi les tarifs.
Merci Céline Malaisé. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale PCF, présidente du groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne à la région Île-de-France.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.